Laudetur Jesus Christus.
Publication ce jeudi du message du pape pour la prochaine journée mondiale missionnaire. En cette année jubilaire, il est centré sur l'espérance dans un monde qui en a cruellement besoin. Nous y revenons dès le début de ce journal. Les Gazaouis resteront chez eux, n'accepteront jamais qu'une occupation se substitue à une autre. Ce soir, le Hamas appelle à la tenue d'un sommet de la Ligue arabe en urgence. Nous retrouverons notre correspondante à Jérusalem-Est. Vous entendrez également le nonce apostolique au Caire. Monseigneur Thévenin défend le maintien de la stabilité en Égypte. Et puis enfin dans ce journal, direction Goma, conquise par le M23. Les nouveaux venus y ont tenu leur premier meeting. Ils poursuivront leur offensive. Ils ont aussi installé des autorités parallèles dans la ville, ce qui n'empêche pas les pillages. Témoignage d'une ONG d'aide au développement italienne sur place.
Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
Bonsoir à tous. Missionnaire de l'espérance parmi les peuples, c'est le thème de la prochaine journée missionnaire mondiale qui aura lieu le 19 octobre prochain. Dans le cadre du jubilé de l'espérance, le pape a dévoilé son message à cette occasion, rappelant que les missionnaires doivent être des constructeurs d'espérance dans des sociétés qui en manquent cruellement. C'est par la prière, l'Eucharistie et la vie communautaire qu'ils pourront aller de l'avant. Le compte-rendu de Xavier Sartre.
Pour accompagner cette feuille de route, il y a d'abord une boussole. Jésus, divin missionnaire de l'espérance, le modèle suprême, affirme François. Et c'est par ses disciples qu'il se penche encore sur chaque personne pauvre, affligée, désespérée et rongée par le mal. Et c'est par l'Église, bien sûr, qu'il agit. Tous ses membres sont ainsi invités à faire briller l'espérance du Christ en tous les coins de la terre. Et notamment dans les zones les plus développées qui souffrent d'une crise de l'humain, dont les symptômes sont un sens diffus de désarroi, de solitude ou d'abandon des personnes âgées. Le pape regrette ainsi la disparition de la proximité. Nous sommes tous interconnectés, mais nous ne sommes pas en relation, constate-t-il. Or, l'évangile vécu dans la communauté peut nous rendre une humanité intègre, saine et rachetée. Alors, pour accomplir cette mission d'espérance, le pape donne quelques moyens. Tout d'abord, le cœur du Christ, à la source duquel on peut puiser pour apporter aux autres la même consolation par laquelle nous sommes consolés par Dieu. Autre moyen détaillé par le pape, la prière. Et puis, l'évangélisation, surtout, c'est toujours un processus communautaire qui continue avec la construction des communautés chrétiennes à travers l'accompagnement de chaque baptisé sur le chemin de l'évangile. Car, souligne le pape, l'appartenance à l'Église n'est jamais une réalité acquise, une fois pour toutes.
Xavier Sartre, et puis le pape souffre d'une bronchite, c'est ce qu'annonce la salle de presse du Saint-Siège ce soir, demain et samedi, pour protéger les forces du souverain pontife de 88 ans. Ces audiences se dérouleront toutes à la résidence Sainte-Marthe, où il demeure au Vatican. Et puis ce matin à Sainte-Marthe, déjà le pape recevait une vingtaine de prêtres et de moines orthodoxes orientaux. En cette année du 1700e anniversaire du premier concile œcuménique de l'Église, le pape a réaffirmé que le credo de Nicée-Constantinople était un trait d'union entre tous les chrétiens. Dans un discours remis, il rappelle aujourd'hui l'importance de cette prière, symbole et fondamentale. Pour lui, les chrétiens encore divisés sont comme des petits morceaux qui doivent retrouver leur unité. François, qui n'a jamais fait mystère de son intention de se rendre en Turquie cette année pour célébrer cette date phare du christianisme du 20 mai 325 à Nicée. La Turquie qui commémore ce jeudi le séisme du siècle, le tremblement de terre du 6 février 2023. Il avait provoqué l'effondrement de dizaines de milliers d'immeubles. Près de 60 000 personnes avaient perdu la vie. Deux ans après le séisme, 670 000 personnes vivent encore dans des containers. 47 583, on parle cette fois des morts à Gaza selon un nouveau bilan, et la crise humanitaire après 15 mois de guerre nécessite un soutien massif. Ce soir, l'ONU annonce une accélération de l'aide. 10 000 camions ont pu entrer dans l'enclave palestinienne depuis le cessez-le-feu du 19 janvier. Gaza en ruine sera remise aux États-Unis par Israël une fois la guerre finie et aucun soldat américain ne sera donc nécessaire. Le président Donald Trump persiste et signe sur son réseau social Truth les ambitions du président américain de vider la bande de Gaza de ses habitants pour en faire un projet immobilier de luxe provoque ce soir de nouvelles réactions, celle du Hamas en particulier, qui appelle à un sommet en urgence de la Ligue arabe et prévient une occupation ne remplacera pas l'autre. La correspondance de Valérie Ferron.
Si depuis la mise en place du cessez-le-feu, environ 1 million d'enfants et d'adultes ont pu recevoir de l'aide humanitaire, selon l'Agence des Nations Unies OCHA, les besoins restent immenses, notamment dans la région nord, où quelques 560 000 personnes sont revenues. Les pénuries de fioul, d'eau potable, de médicaments et surtout de logements provisoires continuent de se faire cruellement sentir. Pour les organisations humanitaires, si les bombardements israéliens se sont arrêtés, la guerre contre les populations civiles se poursuit. L'aide humanitaire transite actuellement uniquement par 3 passages terrestres et les chargements sont soumis à toute une procédure de la part d'Israël qui ralentissent gravement leur passage. La puissance occupante continue également d'interdire l'entrée de machines pour dégager les gravats ainsi que des produits agricoles tels que des fertilisants pour relancer ce secteur crucial. Israël interdit également l'entrée de matériel scolaire, continue ainsi à priver les enfants de la bande de Gaza de leur droit à l'éducation. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
Valérie Ferron qui revenait donc sur les besoins humanitaires de Gaza, puis revenir au souhait de Donald Trump. Le président américain voudrait déplacer les Gazaouis donc en Jordanie, en Égypte. Hier, le roi de Jordanie Abdallah II a rejeté toute tentative visant à prendre le contrôle des territoires palestiniens, à déplacer ses habitants. Une menace de déstabilisation existentielle que partage aussi le Caire. C'est ce que nous explique, non sans inquiétude, Monseigneur Nicolas Thévenin. Il est nonce apostolique en Égypte.
Il y a besoin de ce point de stabilité dans la région. Il y a des pressions, bien sûr, qui seront exercées sur l'Égypte, mais elle ne peut pas. Elle ne peut pas parce que ça engendrera immédiatement une instabilité politique. Donc je pense que l'Égypte est et doit rester un pays qui est un peu le point de stabilité et que même pour les solutions, que ce soit au Soudan, en Libye et même en Syrie, l'Égypte a son mot à dire. L'Égypte a son mot à dire comme un pays qui est stable, comme un pays où justement l'harmonie existe entre les différentes composantes. Ceux qui veulent créer des entités étatiques qui excluent l'autre n'ont pas d'avenir. Et c'est pour ça que c'est très important de maintenir, comme en Égypte, comme au Liban, des États et en Syrie, des États où il y a la possibilité d'être de différentes confessions sans être persécuté, sans être opprimé, est très importante. Et je crois que c'est pour ça que, dans la situation actuelle, bien évidemment, le Saint-Siège est préoccupé de tout ce qui peut aller contre une solution pacifique et une cohabitation.
Monseigneur Nicolas Thévenin, nonce au Caire, interrogé par Marine Henriot. La question des déportations est une problématique on ne peut plus récurrente depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Les premières expulsions de migrants des États-Unis vers la Colombie ou encore l'Inde suscitent l'inquiétude de nombreuses associations. L'Église catholique se défend, elle, des critiques qui l'ont visée, notamment venant du vice-président américain qui a critiqué donc une mauvaise utilisation des fonds fédéraux destinés à l'installation des réfugiés. Ce partenariat entre l'Église et le gouvernement existe depuis que le Congrès a promulgué le programme d'admission des réfugiés aux États-Unis en 1980. Nous assumons ce travail en servant des personnes de toute race, croyance ou couleur parce que c'est l'évangile, a répondu le cardinal Kupich, l'archevêque de Chicago aujourd'hui. En République démocratique du Congo, le M23 a tenu ce jeudi son premier meeting à Goma, dans la capitale du Nord Kivu. Le groupe armé anti-gouvernemental aurait instauré des instances de gouvernement parallèles. Difficile toutefois d'obtenir des nouvelles, des témoignages sur ce qui se passe réellement à Goma depuis sa prise de contrôle, d'où l'importance de ce récit de la responsable pour la République démocratique du Congo du Volontariat international pour le développement, le VIS, une ONG italienne présente à Goma. Monica Corna rend compte des derniers événements ayant touché la principale ville de l'Est de la RDC.
L'unica cosa che è successa veramente che è stata grossa è il saccheggio della città.
La seule chose qui s'est vraiment produite ici et qui a été conséquente, c'est le pillage de la ville. C'est une chose hallucinante. Cela continue actuellement et c'est vraiment horrible car cela s'accompagne de violences. Ils emportent tout, même les dépôts des hôpitaux. Il y a encore du matériel de premier secours, des médicaments, du matériel pour opérer les blessés, à tel point que la Croix-Rouge internationale a travaillé sans interruption en opérant d'une manière que même ici les vétérinaires ne font pas parce qu'il n'y a plus rien.
Des propos recueillis par notre confrère de la rédaction italienne Stefano Leschinski. Et 10 jours après l'offensive des rebelles du M23 et de l'armée rwandaise sur Goma, l'église catholique et protestante, les deux églises notamment, se mobilisent pour trouver une solution à la crise dans l'est du pays. Elles annoncent le lancement d'un dialogue national qui inclurait les différents acteurs du pays, y compris le M23. La guerre au Soudan, un nouveau chapitre peut-être. L'armée soudanaise a avancé aujourd'hui vers le centre de Khartoum, la capitale, sur plusieurs axes. Ces hommes s'approchant du palais présidentielle contrôlée par les paramilitaires. Et puis les Nations Unies ont averti aujourd'hui que 2 États du sud du Soudan étaient au bord de la catastrophe après la récente éruption de violence qui aurait fait au moins 80 morts dans une de ces villes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité du monde et bien sûr de l'Église dans le monde et du pape François. Ce sera demain matin à 8h30, heure de Rome. D'ici là, une excellente soirée à vous tous.